Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Depuis des semaines, les négociations tournaient autour de la construction du fameux mur que Donald Trump veut ériger pour lutter contre l'immigration clandestine à la frontière mexicaine. Avec en toile de fond la menace d'un nouveau shutdown hier. Et après qu'un compromis budgétaire a finalement été obtenu afin d'éviter une nouvelle paralysie de l'administration, le président a indiqué qu'il allait déclarer l'urgence nationale pour financer le mur.
Alors que des milliers de manifestants réclament depuis plusieurs jours sa démission, le président haïtien leur a opposé hier une fin de non-recevoir.
Il n'entend pas quitter son poste en dépit d'affrontements violents qui ont déjà fait plusieurs morts. Après le rejet de son budget sur fond de crise persistante en Catalogne, le chef du gouvernement espagnol a convoqué ce matin des élections législatives, les troisièmes en moins de 4 ans, ce sera le 28 avril prochain.
En France, Éric Drouet, figure du mouvement des Gilets jaunes dont l'interpellation le mois dernier avait indigné à gauche comme à droite, est jugé depuis ce matin à Paris pour organisation de manifestations sans déclaration préalable.
Oui, il encourt 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Enfin, l'invité Europe de la rédaction aujourd'hui, Marc Lazare, professeur d'histoire, de sociologie politique à Sciences Po. Il dirige notamment le groupe de recherche pluridisciplinaire sur l'Italie contemporaine. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et nous reviendrons sur le succès prodigieux de l'ami prodigieuse, la tétralogie best-seller de l'écrivaine italienne Elena Ferrante, anonyme certes, mais qui a beaucoup à nous dire sur la fabrique et le processus d'écriture qui l'ont guidée jusqu'ici. Elle en parle dans un ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard, Frantu Maglia, ou tout savoir sur Elena Ferrante. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission.
Merci, à tout à l'heure. Si à bien des égards, les vastes plaines désertiques du Mexique et leurs cactus candélabres rappellent certains décors de western, c'est davantage encore l'esprit même du Far West qui semble planer depuis quelques mois déjà au-dessus de la région frontalière avec les États-Unis. Dernière illustration, hier, au risque de raviver l'image la plus facilement associée à celle du cowboy prêt à tout pour faire régner l'ordre, Donald Trump a donc fini par choisir la confrontation pour exiger la construction de son mur destiné, selon lui, à stopper une crise de sécurité nationale. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors qu'hier encore, les États-Unis étaient de nouveau menacés par un shutdown, Donald Trump s'est finalement engagé à promulguer un compromis budgétaire, sauf qu'il a, dans le même temps, annoncé son intention de déclarer l'urgence nationale, une procédure exceptionnelle, entièrement à sa discrétion, et qui devrait lui permettre donc de débloquer les fonds supplémentaires pour la construction de ce mur. Alors les démocrates ont aussitôt dénoncé un abus de pouvoir, même dans les rangs républicains la mesure ne semble pas franchement faire l'unanimité, d'où cette question. Nathanaël, les élus sont-ils aujourd'hui en mesure de faire annuler cette décision?
Bien Thomas, c'est une réponse de Normand que je vais vous faire. Oui et non. Non, parce que l'arme d'urgence nationale est une arme lourde tout d'abord. Il faut dire que la mesure est assez radicale. Pendant 6 mois, Trump peut contourner le Congrès, il a les mains libres pour agir, cela lui donne la possibilité de mobiliser des fonds, de demander l'aide de l'armée. Cette mesure a déjà été prise par George W. Bush après les attentats de 2011, par Barack Obama en 2009 pour l'épidémie de grippe H1N1 ou encore par Jimmy Carter. C'est un petit peu plus vieux au moment de la prise d'otage de l'ambassade américaine de Téhéran en Iran en 79. Alors, arme lourde donc, que rien ne semble pouvoir arrêter, mais comme toujours aux États-Unis, arme encadré, qui fait qu'à l'arrivée, Donald Trump n'a pas encore posé sa première pierre du mur. Alors oui, les élus ont des cartes à jouer. Il faut savoir par exemple que lorsque l'urgence nationale est décrétée, elle peut tout d'abord être contestée par le Congrès qui peut décider d'aller en justice pour s'opposer à la mesure. Le débat va être technique, il suffira de justifier l'urgence nationale. Est-ce que la construction d'un mur est une urgence? Les avis sont partagés, non, disent bien sûr les opposants. Oui, répondent les défenseurs du mur, qui expliquent que ce sont quand même des centaines de milliers de migrants qui passe à frontière. Ensuite, l'urgence nationale est encadrée dans le temps. Si Trump y a recours, le Congrès se réunira dans 6 mois plus tard, et devra voter pour renouveler la mesure ou au contraire y mettre un terme. Et là, c'est une vraie bataille politique qui va se jouer. Les démocrates sont opposés, cela on le sait, même y compris chez les républicains. Le sujet fait débat, vous l'avez dit, la sénatrice républicaine Susan Collins le dit, déclarer l'urgence nationale est une erreur, c'est même, ajoute-t-elle, un abus de pouvoir. Sans compter que, de toute façon, Donald Trump a déjà échoué. Il a dû renoncer à l'une de ses promesses de campagne de faire payer le mur aux Mexicains. Or, on le voit avec le bras de fer qui se joue aux États-Unis, la facture sera bien américaine.
Merci Nathanaël Charbonnier. Les entretiens sino-américains pour trouver une issue à la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales ont pris fin comme prévu ce matin à Pékin. Pour l'heure, rien n'a filtré de la teneur de ces entretiens. Donald Trump et son homologue Xi Jinping s'étaient donné jusqu'au 1er mars pour parvenir à un accord de rééquilibrage. Les négociations devraient reprendre la semaine prochaine à Washington. La conférence à Varsovie, co-organisée par la Pologne et les États-Unis pour resserrer les rangs contre l'Iran, avait suscité tellement de défiance, sinon de méfiance, qu'elle avait même été renommée en conférence pour la promotion de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient. Pour autant, les déclarations hier du vice-président américain ne laissaient que peu de place au doute quant à la véritable nature de ce sommet. Mike Pence a non seulement appelé au retrait des puissances européennes de l'accord nucléaire iranien, tout en avertissant de nouvelles sanctions américaines contre Téhéran. Washington a également annoncé hier soir le rappel de ses diplomates non essentiels et de leurs familles basées en Haïti et exhorté les Américains à ne pas se rendre dans ce pays où se déroulent depuis une semaine maintenant des manifestations violentes en marge desquelles au moins 7 personnes ont déjà trouvé la mort. Alors hier et pour la première fois depuis le début de ces troubles, le président est enfin sorti de son silence par le biais d'une allocution diffusée sur la télévision d'État. Jovenel Moïse a notamment répondu aux milliers de manifestants qui souhaitent son départ en précisant qu'il ne démissionnerait pas et qu'il n'avait pas davantage l'intention de céder le pouvoir à un régime de transition. Thibaut Cavaillès, bonjour.
Bonjour Thomas.
Aujourd'hui, la colère populaire semble pourtant bel et bien se cristalliser autour de la personne du président. Peut-être faut-il commencer par rappeler qui il est.
Un homme à la tête d'Haïti depuis précisément 2 ans, quasiment inconnu en politique lorsqu'il s'est présenté à l'élection mouvementée de 2015. À l'origine, c'est un homme d'affaires, patron d'une bananeraie la plus grande du pays. Il est proche de Michel Martelly, l'ancien chef d'État haïtien qui, quand il était en poste, a permis à son ami d'obtenir un prêt gouvernemental de 6 millions de dollars pour sa société. Martelly, qui en a fait son dauphin, le lançant pour lui succéder au palais présidentiel, lui ne pouvant plus se présenter. Alors il faut savoir que peu après son élection, Jovenel Moïse a promis qu'il allait travailler pour que chaque Haïtien puisse mieux vivre, une promesse faite depuis un hôtel de luxe. Et hier soir, donc, à la télévision haïtienne, il a tenté d'apaiser les manifestants qui demandent sa démission.
Moi, attendez, voix peuple là.
Nous entendons le peuple, un paquet de mesures a été pris par le gouvernement, dit-il en créole. Pas plus de détails sur ces mesures qui devraient être présentées dans les prochaines heures, a-t-il promis sur Twitter. En tout cas, pas question de démission, ni de toucher au gouvernement. Ceux de transition, a-t-il déclaré, ont donné un paquet de catastrophes et de désordres.
Alors Haïti, Thibault, on le sait, est aujourd'hui le pays le plus pauvre du continent américain. 60% de sa population vit sous le seuil de pauvreté, mais ce n'est pas là le seul motif de ce mécontentement populaire. La contestation a été exacerbé par la publication, c'était fin janvier, d'un rapport sur 2 possibles détournements de près de 2 milliards de dollars.
2 milliards de dollars qui proviennent du fonds Petrocaribe, un programme d'aide offert par le Venezuela à Haïti depuis 2008. L'an dernier, 4 anciens présidents haïtiens et plusieurs ministres avaient été cités dans une enquête autour de cette immense affaire de corruption. Des manifestations de protestation avaient eu lieu en septembre dernier. Et donc, il y a 15 jours, la Cour supérieure des comptes haïtiennes a présenté un rapport dans lequel on apprend que 15 anciens ministres et hauts fonctionnaires sont impliqués, tout comme une compagnie bénéficiaire de ces fonds d'aide, la compagnie Agritrans, dont le propriétaire s'appelle, Thomas, je vous le donne en mille, Jovenel Moïse.
Merci Thibaut Cavaillès. Au Venezuela, le duel entre le président élu Nicolas Maduro et son adversaire, le président autoproclamé Juan Guaido, se poursuit. Après que le chef de l'opposition a décidé de nommer de nouveaux dirigeants à la tête de la filiale américaine de la compagnie pétrolière nationale, le chef de l'État légal a décidé de contre-attaquer. Plus exactement, la Cour suprême acquise au pouvoir en place a annoncé l'ouverture de poursuites pénales justement contre les 15 dirigeants que le Parlement venait de nommer la veille à la tête du groupe public pétrolier. Et puis pendant ce temps, l'organisation de l'aide destinée à la population vénézuélienne par des pays opposés au régime de Caracas s'est précisée hier avec d'une part l'annonce d'une collecte de 100 millions de dollars et d'autre part la perspective d'un grand concert humanitaire en Colombie. Comme attendu, le Parlement égyptien a approuvé hier à une écrasante majorité l'examen d'une série d'amendements constitutionnels qui devraient permettre au président, le général Al-Sisi, non seulement de rester au pouvoir jusqu'en 2034, mais aussi de contrôler plus étroitement encore l'appareil judiciaire. En Espagne, au surlendemain du rejet par le Parlement de son projet de budget, le chef du gouvernement socialiste n'a eu d'autre choix ce matin que de convoquer des élections législatives anticipées. Celles-ci auront lieu le 28 avril prochain. Ainsi, on a donc décidé Pedro Sanchez, lequel n'aura pas réussi à maintenir la fragile majorité qui lui avait permis de renverser son prédécesseur conservateur il y a à peine 8 mois. Les précisions depuis Madrid de notre correspondante Marie-Hélène Ballestero.
Sans surprise, la législature de Pedro Sanchez touche à sa fin. Tout s'est précipité ces derniers jours lorsque l'opposition a rejeté en masse au Parlement le budget annuel. Dos au mur, le chef du gouvernement n'avait plus de marge de manœuvre. Depuis le palais de la Moncloa, sa résidence officielle, il vient d'annoncer la convocation d'élections législatives anticipées.
Entre les deux options,
il y a deux options. Ne rien faire en continuant sans budget ou bien convoquer et donner la parole aux Espagnols. J'ai choisi la deuxième. L'Espagne doit continuer à avancer et à progresser. C'est pour cette raison que je vous annonce que, compte tenu de mes prérogatives en tant que chef du gouvernement espagnol et après délibération en Conseil des ministres, j'ai proposé de dissoudre les chambres et de convoquer des élections législatives le 28 avril.
Pedro Sanchez a fait le bilan de cette courte législature qui s'est soldée par l'adoption de 13 lois et 25 décrets-lois. Une activité intense, mais Sanchez regrette l'attitude de l'opposition qui n'a jamais soutenu le gouvernement et n'a fait que mettre des bâtons dans les roues. Résultat, de nombreux projets et lois ont été bloqués. Après 9 mois de législature, l'exécutif socialiste jette donc l'éponge, mais ce n'est que pour mieux rebondir. Pedro Sanchez compte bien remporter les prochaines élections législatives. Quant au calendrier électoral, les Cortes vont être dissoutes le 5 mars et la campagne doit démarrer officiellement le 12 avril. Une campagne qui, nul doute, sera marquée par la crispation du débat politique. Pendant ce temps-là, le procès contre les indépendantistes catalans doit se poursuivre à la Cour suprême.
Alors, ces élections seront-elles en mesure de résoudre l'instabilité chronique qui, depuis 4 ans et la fin du bipartisme, secoue l'arène politique espagnole? Si le Premier ministre, Pedro Sanchez, apparaît plus que jamais fragilisé, l'opposition n'en reste pas moins, elle aussi, extrêmement divisée. Aucun parti ne semble en réalité en mesure d'atteindre la majorité, sans compter que ce qui pèse aujourd'hui sur la vie politique espagnole, c'est cette question catalane, ravivée par le procès, Marie-Hélène le rappelait à l'instant, qui se tient actuellement à Madrid, tant que les voix des nationalistes catalans, mais aussi basques, s'avéreront indispensables pour gouverner, un nouveau blocage n'est pas à exclure. Et c'est d'ailleurs l'analyse défendue par Barbara Loyer, professeure à l'Institut de géopolitique de l'Université Paris 8, pour qui la question territoriale est au fondement de la crise qui secoue le pays. Elle le dit à Marie-Pierre Véraud.
C'est sur la question catalane que Pedro Sanchez a pris le pouvoir en faisant ses concessions. Ce sont les séparatistes catalans qui le font chuter. C'est la question catalane qui fait apparaître l'extrême droite en Espagne, parce que une bonne partie, on va dire, des électeurs de droite pensent que Mariano Rajoy du Parti Populaire a très mal géré l'affaire et a provoqué un processus qu'on n'arrive plus à arrêter. Donc la question catalane, elle est au centre des débats actuellement et elle va être au centre des résultats électoraux. C'est la question territoriale et la question de la nation espagnole qui sont là au cœur de la politique actuelle.
À 43 jours de la date fixée pour le Brexit, la position déjà fragile de la première ministre britannique Theresa May s'est un peu plus encore effritée. Hier, les députés ont en effet rejeté la motion dans laquelle le gouvernement expliquait comment il souhaitait renégocier l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne, accord qui avait été sèchement recalé lors d'un vote à la mi-janvier au Parlement britannique. La référence biblique du titre de son livre annonce clairement son propos. Sodoma, enquête au cœur du Vatican. Dans son ouvrage, Frédéric Martel, écrivain, sociologue et producteur à France Culture, décrit une institution imprégnée d'une sociabilité de référence à forte prégnance homosexuelle, alors même qu'elle a fait de la condamnation de cette orientation sexuelle l'un des messages structurants de son discours moral. Il était l'invité ce matin de la matinale de Guillaume Herner. On l'écoute.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est face à une sociologie. C'est que l'Église, par son fonctionnement, la manière dont elle recrute ses prêtres, la manière dont elle promeut des prêtres pour devenir évêques, et comment les cardinaux choisissent les évêques avec les papes, etc., c'est une sociologie qui mène à une homosexualisation de plus en plus forte à mesure qu'on monte dans la hiérarchie vaticane. C'est le système la question, et non pas les individus. Il faut toujours remonter au système. Le sujet, c'est la banalité. Le sujet, c'est aussi ce qu'on appelle des homophiles. C'est-à-dire des gens qui sont homosexuels. Pour moi, ils sont homosexuels puisque c'est une sensibilité, c'est une culture. Ça a aussi beaucoup d'effets dans leur vie. Mais ils peuvent être tout à fait chastes. Et ces personnes, en fait, vivent, et c'est le cas de beaucoup de cardinaux. Vous savez, on a affaire au Collège Cardinalis à des gens qui ont souvent plus de 75 ans. J'en ai rencontré un certain nombre qui avaient 95 ans. Donc, par nature, on peut penser que leur sexualité est relativement limitée. Ce qui est important là, c'est que c'est quand même des gens qui sont homosexuels. Et ils viennent d'une culture des années 50. Ils sont encore dans une culture du déni, du secret, de la double vie, où au fond, on ment aux autres et on se ment aussi à soi-même. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette homosexualité massive au niveau du Collège Cardinalis et au niveau du Vatican, voir que les effets de tout ça sont une source de distorsion de tous les aspects de la vie de l'Église. Et si le système est gay et si le discours public est homophobe, il y a quand même une hypocrisie, il y a quand même une schizophrénie, il y a quand même une double vie. Et ces trois mots, ce sont les mots du pape François.
On a Frédéric Martel, auteur de « Sodoma, enquête au cœur du Vatican », publié aux éditions Robert Laffont et à paraître le 21 février. Autrement dit, au moment même où à Rome débutera un sommet de 4 jours sur la pédophilie auquel tous les présidents de conférences épiscopales du monde ont été convoqués. Le représentant du pape en France, visé par une enquête pour agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés le 17 janvier dernier à la mairie de Paris, lors de la cérémonie des vœux de la mère aux autorités diplomatiques et religieuses. Le nonce apostolique Monseigneur Luigi Ventura était présent sur les lieux où un jeune cadre de la mairie chargé de l'accueillir dit avoir été victime d'attouchement. Il est l'une des figures des Gilets jaunes. Éric Drouet, père de famille de 33 ans, chauffeur routier de Seine-et-Marne, est jugé depuis ce matin au palais de justice de Paris pour avoir organisé 2 manifestations non déclarées dans la capitale. Il encourt 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. Compte rendu de cette première matinée d'audience signée Antoine Marette.
Pour le parquet, Éric Drouet a organisé ses 2 manifestations à Paris en appelant sur les réseaux sociaux à ses rassemblements. C'est surtout celui du 2 janvier qui est l'objet de toutes les attentions, le plus médiatisé. La vidéo YouTube projetée au cours de l'audience montre l'arrestation du prévenu sur les Champs-Élysées, encadré par des policiers hués par des gilets jaunes. Son avocat dénonce une arrestation arbitraire pour des motifs politiques. On a voulu mater un mouvement social, s'indigne-t-il. Éric Drouet se défend d'avoir organisé une quelconque manifestation. Les appels sur Facebook, un simple dîner organisé entre amis au restaurant et le dépôt de bougies en pleine rue, un hommage improvisé aux victimes gilets jaunes. Sauf que le procureur le rappelle, quelques heures avant, Éric Drouet déclarait dans une vidéo postée sur Facebook « Ce soir, on va pas faire une grosse action, mais on veut choquer l'opinion publique. Je sais pas s'il y en aura qui seront avec nous sur les champs. On va tous y aller sans gilet. » L'un des juges l'interpelle sur l'hommage avec des bougies. « Ça se passe sur la voie publique, il y a une dimension collective, vous êtes un des leaders de ce mouvement, vous savez que cette action est susceptible d'attirer des personnes. » Concernant la manifestation du 22 décembre organisée à Montmartre, le procureur interroge le prévenu. « Quand on appelle à manifester, il y a une responsabilité qui en découle. En ne la déclarant pas, on prend le risque de troubles. » Réponse d'Éric Drouet, « Je suis pas responsable de tout, chaque gilet jaune est responsable de lui-même. » Il n'y a pas de leader dans notre mouvement.
Et j'ajoute qu'un mois de prison avec sursis et amende ont été requis ce matin contre Éric Drouet. L'invité Europe de la rédaction à présent, Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po, directeur notamment du groupe de recherche pluridisciplinaire sur l'Italie contemporaine. L'occasion notamment d'évoquer ensemble les relations franco-italiennes. Il se trouve que la France a décidé de renvoyer dans la journée à Rome son ambassadeur qu'elle avait pourtant rappelé à Paris la semaine dernière après une série d'attaques de plusieurs dirigeants populistes italiens contre le président Emmanuel Macron. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
C'est donc le premier thème que vous avez choisi de développer avec votre invité.
Bonjour Marc Lazare.
Bonjour.
L'ambassadeur français est donc de retour à Rome aujourd'hui. C'est le Quai d'Orsay qui l'annonce. Est-ce que c'est un signe vraiment d'apaisement donc entre la France et l'Italie ?
Oui, absolument, c'est un signe d'apaisement, mais qui fait suite à deux événements qu'il faut rappeler. D'une part, le coup de téléphone donné par le président de la République française, Emmanuel Macron, au président de la République italienne, Sergio Mattarella, et tous les deux ont affirmé l'importance de l'amitié franco-italienne en Europe. Et puis, l'entretien hier donné par le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, au Corriere della Sera, qui cherchait lui aussi à apaiser le ton et à rappeler que s'il n'y a pas de polémique venue de Rome, eh bien, évidemment, l'amitié franco-italienne se repartirait sur des bonnes bases.
Mais est-ce que c'était un petit peu la comédie du divorce entre la France et l'Italie, ou est-ce que l'affaire était grave après cette histoire de gilets jaunes et de rencontre avec Luigi Di Maio?
Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'une comédie, encore moins d'une comédie dell'arte. Non, je crois que c'est la crise politique la plus profonde qui existe entre la France et l'Italie depuis 1945. C'est non seulement une première, et surtout venue du côté d'Italie. On a pu bien sûr avoir au moment des élections, aussi bien en Italie qu'en France, des représentants de partis politiques qui allaient soutenir des camarades à eux, des amis à eux, par exemple que ce soit les socialistes ou la droite hein, dans les deux pays. Mais là, c'est le vice-président Luigi Di Maio qui est venu en France, donc sans respecter la tradition, c'est-à-dire d'avertir les autorités françaises de sa présence, qui se fait photographier avec des gilets jaunes, qui soutient un homme parmi les gilets jaunes, un de ceux qui se présentent comme un des leaders des gilets jaunes, qui en appelle à la guerre civile et qui, hier à la télévision italienne, a fait une déclaration invraisemblable en disant qu'il fallait se préparer à un coup d'état militaire en France et qu'il le souhaitait, qu'il fallait encore plus aller vers une guerre civile. Et donc, évidemment, cela a pris une ampleur considérable. Si Luigi Di Maio fait cela, il faut bien comprendre pourquoi, c'est qu'il essaye à tout prix d'avoir des alliés au Parlement européen, parce qu'il est peut-être allié au gouvernement avec Salvini à Rome, mais au Parlement européen, ils ne siégeront pas dans le même groupe. Et donc, il a besoin d'alliés. Donc, il a besoin d'avoir une liste des gilets jaunes pour les élections européennes. Je vais vous dire une chose, d'après moi, il y aura encore des moments de tension, peut-être pas si violents que ceux que l'on a connus, parce que la perspective, c'est les élections européennes.
Alors justement, le contexte des élections européennes, où est le point d'achoppement entre les deux pays?
Je crois qu'ils ont tendance à s'ériger l'un et l'autre en adversaires réciproques. Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue et le vice-président du Conseil, ministre de l'Intérieur. Luigi Di Maio, l'autre vice-président du Conseil, dirigeant du mouvement 5 étoiles, ministre du Développement économique, du Travail et des Protections sociales, ont besoin, surtout quand ils se divisent entre eux, justement de trouver une cible. Et quelle meilleure cible que celle d'Emmanuel Macron? Pour eux, c'est le symbole, l'incarnation de cette Europe qu'ils veulent rejeter, ou plus exactement qu'ils veulent changer de l'intérieur, justement en perspective des prochaines élections européennes au Parlement de Strasbourg. Et puis du côté français, il y a eu, c'est un peu moins vrai maintenant, mais il a eu la tentation chez Emmanuel Macron de constituer le clivage fondamental qui serait celui qui opposerait le pro-européen qu'il est aux grands adversaires populistes et souverainistes, c'est-à-dire Matteo Salvini et Viktor Orban, le Hongrois. Donc si on va vers ça, c'est-à-dire cet affrontement, cette polarisation entre deux conceptions de l'Europe, évidemment, il y aura d'autres moments de tension, mais avec certaines limites à ne plus franchir, c'est ce qu'a voulu indiquer le gouvernement français en rappelant son ambassadeur.
Alors quel est l'enjeu d'après vous maintenant, justement, dans ce contexte d'élection européenne? Comment les deux pays vont se comporter?
Mais je crois qu'il va y avoir donc ce mouvement de balancier entre des moments de tension et des moments de détente, de répit. Et ces moments de répit et de détente ont une explication. C'est que la France et l'Italie ont des intérêts économiques et commerciaux très importants et qu'il y a un risque que cette crise politique ait une influence sur les relations économiques et commerciales. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont en Italie. Il peut y avoir des tensions à l'intérieur de ces entreprises entre le personnel italien et l'encadrement et le personnel français. Il peut y avoir des mesures éventuellement de rétorsion. Certaines entreprises françaises hésitent à faire des investissements supérieurs, d'une part à cause de la situation économique de l'Italie qui est quasiment en récession actuellement, et d'autre part à cause de ce climat d'incertitude politique. Alors ces réalités économiques sont des contraintes, et c'est pour ça qu'on va avoir un petit jeu, à mon sens, justement de tension et de répit jusqu'aux élections européennes. Mais surtout, je voudrais insister sur un point, parce que c'est fondamental. Il faut bien comprendre qu'il y a actuellement en Italie, et là aussi je pèse mes mots, un sentiment anti-français qui n'a jamais existé dans le passé. Jamais. En tout cas, jamais depuis l'histoire, je crois, de la République italienne. Je ne parle pas de la période du fascisme. Et ce sentiment anti-français se caractérise par des petits incidents dans la vie quotidienne, mais on l'enregistre dans les sondages. Un récent sondage a montré qu'il n'y avait plus que 24% d'Italiens qui avaient confiance dans la France, contre 41% il y a une dizaine d'années. Donc oui, ça c'est vraiment un élément important qu'on ne retrouve pas en France, parce qu'il y a une dissymétrie du rapport entre la France et l'Italie. Les Français sont pas spécialement intéressés par la question italienne. En Italie, la France attire et en même temps suscite l'hostilité des Italiens qui nous accusent, et parfois c'est justifié, il faut reconnaître, d'une forme d'arrogance, d'un esprit de supériorité. Et donc là, le grand enjeu pour Christian Massé qui rentre à Rome, mais pour aussi les entreprises françaises et pour les responsables politiques français, c'est de bien prendre en compte ce sentiment anti-français dans le type de déclaration qu'on fait en direction des Italiens.
Merci Marc Lazare.
Ben, merci à vous.
Et merci à vous également Annabelle Grelier. On termine avec un mot rapide de météo, même si le ciel sera parfois plus hésitant. Près du golfe du Lion, le soleil parviendra à s'imposer sur l'ensemble du pays. Les températures en très nette hausse, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 11 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.